Vous savez ce qu'on va faire? On va se lever. Ce n'est pas une méthode nouvelle. C'est pour réenseigner aux chrétiens le respect lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il y a dans le royaume de Dieu beaucoup de rebelles, de gens qui contestent avec Dieu. Vous savez, la Bible dit « Malheur à celui qui conteste avec son père ou sa mère ». C'est écrit ça. Mais il est aussi écrit « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur ». Et je sais, parce que le Saint-Esprit me l'a révélé, qu'il y a dans l'Église des rebelles, des gens qui contestent la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, comme je l'ai souvent dit, nous n'avons pas jugé la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu de nous juger. Et je voudrais qu'on lise ce chapitre 4 de Zacharie avec beaucoup de sérieux. Nous sommes devant la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole des assemblées de Dieu, ce n'est pas la parole des chrétiens spirituels, c'est la parole du Seigneur. Et je voudrais qu'on le lise avec beaucoup de respect ce chapitre, car il indique les clés pour avoir la vie de l'Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 1er. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Il prit une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Amen. Une autre lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 35. Il est parlé de certains avertissements par rapport au retour du Seigneur, mais nous allons lire juste le verset qui nous préoccupe ce matin, Luc chapitre 12, verset 35. C'est une parole du Seigneur Jésus pour que nous soyons prêts. Et c'est ce qu'il veut bien sûr, ça correspond à l'expression de sa volonté, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc on pourrait résumer ce texte, que vos lampes soient allumées. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, je ne vous ai pas fait lever pour une nouvelle méthode, mais je peux vous dire que je crois qu'on a tout à gagner à faire en sorte d'honorer la parole. Dieu ne nous honorera jamais de sa présence si nous n'honorons pas sa parole. Ne nous leurrons pas un instant. La parole, c'est ce qui a le plus de valeur. C'est la parole qui nous éclaire. Si le Saint-Esprit peut nous conduire, nous enseigner, nous rappeler, nous diriger, nous annoncer des choses qui viennent de Dieu, ça ne sera que par la parole que le Saint-Esprit nous enseignera ces choses. Je vous ai dit l'autre jour qu'un dimanche matin, en me levant, j'étais pas assis à mon bureau, j'arrivais à mon bureau, c'était tôt le matin, j'avais laissé ma Bible ouverte sur l'Apocalypse chapitre 2, et comme j'étais loin, j'avais pas besoin de mes lunettes. Et le Seigneur m'a arrêté, mais vraiment arrêté, c'est rare, je crois que c'est la première fois que ça se passe depuis 34 ans que je suis chrétien. Dieu m'a arrêté alors que j'arrivais pour m'asseoir, par ce texte dans l'Apocalypse chapitre 2, je marche au milieu des chandeliers d'or. Dieu ne marche pas n'importe où. Bien sûr que nous pouvons dire à juste titre que Dieu est au milieu de nous. Ça, nous le savons. Il l'a promis et que son nom soit béni. D'à partir du moment où deux ou trois de ses enfants sont assemblés en son nom, il est là. Mais ça ne l'oblige pas à se manifester. Et nous, ce que nous voulons, c'est que Dieu se manifeste. Parce que c'est ce qu'il veut, lui. C'est pas ce que nous, on veut, parce que tiens, ça nous ferait plaisir. Dieu veut pouvoir se manifester. Il ne se manifeste pas là où il y a de la tiédeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de la Odyssée? Qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur Jésus? On a réussi à le mettre dehors de l'église. Puisque Jésus dit qu'il se tient à la porte. Il n'a pas fallu grand-chose, un peu de négligence, un peu d'illusion. On croyait qu'ils étaient riches parce qu'ils avaient des sous. Et donc, vous voyez, tout ça, etc. Et ils ne savaient pas l'état spirituel dans lequel ils se trouvaient. Et ils ont réussi à mettre Jésus dehors. Je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale, dans bien des églises, il y a longtemps que Jésus est dehors, très loin de la porte même, je pense. Ce texte de Zacharie, chapitre 4, nous rappelle, nous connaissons peut-être ce verset. Il y a des gens qui ne connaissent rien de l'Ancien Testament, mais je peux vous dire que ce verset, ils connaissent, à savoir que Dieu rappelle que l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par l'action vivante du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons? Je vous pose la question, parce que Dieu pose des questions. Est-ce que vous croyez qu'il y a un prix à payer pour être l'instrument du témoignage? Parce que le symbole du chandelier, c'est pour ça que j'ai lu ce texte dans l'Évangile, où Jésus dit, mais je suis la lumière, mais il dit, vous êtes la lumière. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, dont le chandelier, c'est l'instrument du témoignage. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, il faut que Dieu ait un instrument, une assemblée où véritablement nous cherchons l'or. Vous avez vu le chandelier dans le temple, dans le lieu saint, fait partie de ces instruments que Dieu avait placés dans le temple, tout en or. Tout en or, ce qui représente, ce qui symbolise l'intégrité, la pureté. Dans le lieu saint, tout était ou en or ou couvert d'or. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça qu'il dit à l'église de Laodicée, vous rappelez le premier conseil que Dieu donne à l'église de Laodicée? Qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Vous rappelez? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est un conseil. Vous savez, Dieu ne nous forcera pas. Quelle que soit la vigueur, la ferveur, le zèle qu'utilisera un pasteur parce qu'il l'apporterait d'une manière humaine ou charnelle ou même spirituelle. Quelle que soit la façon dont le Seigneur vous parlera, une chose est sûre, ça sera toujours un conseil. Dieu ne nous obligera jamais. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. La vraie richesse, elle n'est pas dans le nombre, elle n'est pas dans les activités, elle n'est pas dans les noms, elle n'est pas dans tout ce que vous voudrez. Je suis en train de faire une liste, j'ai déjà rempli une page. Je voulais la faire, puis ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est par le Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu se fera. Mais bien sûr que l'on peut tous dire, oui, par le Saint-Esprit, mais la question n'est pas que l'on soit intellectuellement ou théologiquement conscient que l'œuvre de Dieu se fera par le Saint-Esprit. C'est facile, les légalistes peuvent le dire avec leur légalisme, les libéraux peuvent le dire à leur façon, et tout ce qu'on voudra. Le problème, ce n'est pas dans ceci. Le problème, c'est qu'il faut absolument que Dieu trouve des chandeliers en or. Car cette affaire ne se réalise, cet or qui découle de ces canaux qui sont alimentés par les oliviers, nous prouve que Dieu ne fera pas son œuvre n'importe comment. Dieu ne marche pas dans une église où on tolérera le péché, où on accepte, au nom de... Alors moi j'entends de tout aujourd'hui, si vous savez tout ce que j'entends. Mais les autres le font. Oui, mais les autres, ils n'ont pas été amenés à la victoire. ces gens qui tolèrent le péché, je peux vous dire que Dieu se passera d'eux. Et la question qu'on devrait se poser est celle-ci. Voulons-nous faire selon le véritable modèle, puisque Dieu montre à Zacharie quel est le modèle qui va permettre à Dieu d'agir? Ou est-ce que nous voulons faire d'après nos idées? Vous imaginez si Moïse, quand même c'était un homme puissant en œuvre et en parole, Moïse c'est quelqu'un, c'est certainement l'homme le plus grand, je ne parle pas de Jésus bien sûr, mais c'est l'homme le plus grand de l'Ancien Testament, c'est évident. Si quand Dieu lui a montré le modèle du tabernacle, Moïse avait mis son grain de sel, il avait dit « Ouais, mais moi ça ne me plaît pas, la cuve des reins, moi je la verrai autrement. » Non, il a fait tout d'après le modèle. Tout. Il n'a pas tergiversé, il a tout fait d'après le modèle. Et en faisant d'après le modèle, Dieu, une fois que ça a été terminé, a manifesté sa gloire. Notre modèle à nous, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre modèle. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Et vraiment, je pense que l'ennemi nous a aveuglés quand on a cru que l'œuvre de Dieu pourrait se faire avec des vases impurs. Parce que si nous arrivions à faire ce que Dieu veut que nous fassions, si nous arrivions à faire les œuvres que Jésus a faites, sans la sanctification, ça voudrait dire, je ne sais pas si vous allez tous comprendre, mais ce n'est pas grave, ça voudrait dire que nous sommes meilleurs que le maître. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Si on arrivait à faire ce qu'on demande à Dieu de faire, c'est la preuve que nous serions devenus meilleurs. Ça arrive dans le monde qu'un violoniste, un élève devienne meilleur que son professeur. Mais dans le royaume de Dieu, je peux vous dire qu'aucun élève ne rattrapera le maître. Mais par contre, tout disciple accompli doit chercher à lui ressembler. Et la raison de notre rassemblement, après avoir chanté, après avoir loué, après avoir partagé le vin et le pain, après tout à l'heure nous partagerons la communion fraternelle, la raison de notre rassemblement, c'est de pouvoir dire, mais est-ce que je veux que mes reins soient sains et mes lampes allumées? Vous vous rappelez dans la parabole, la prophétie des 10 vierges, c'est plus une prophétie, on l'appelle la parabole, mais c'est pour vous dire que c'est une prophétie, nos lampes s'éteignent. Voilà le constat de ces vierges. Nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Combien de chrétiens, s'ils étaient conscients de l'état spirituel dans lequel ils se trouvent, pourraient dire « Mais je suis en train de m'éteindre. J'ai éteint le Saint-Esprit. J'ai perdu. J'ai attristé le Saint-Esprit. Je tolère le péché aujourd'hui comme si c'était normal. » Et voilà, on a attristé le Saint-Esprit. On a réussi, nous aussi, à mettre le Seigneur dehors. Mais le Seigneur frappe. Le Seigneur frappe ce matin à la porte d'un cœur, j'en suis conscient. Cet après-midi, il frappera à la porte du cœur d'un pécheur pour l'amener à la croix. Mais une fois que nous sommes passés par la croix, le Seigneur continue à frapper pour nous amener à la consécration et à la sanctification. Et ce texte n'est pas là. Moi, je peux faire de beaux sermons sur Zacharie chapitre 4. C'est clair, des sermons théologiques, doctrinaux, qui plairaient certainement aux jeunes pasteurs. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, ce n'est pas un discours théologique. Ce qu'il faut, c'est une expérience profonde d'un cœur qui dit « Oui, ma lampe est en train de s'éteindre. Je ne serai pas prêt quand Jésus va revenir. » Car croyez-moi, nous ne nous rendons pas compte à quel point combien de chrétiens ne sont pas prêts pour le retour du Maître. Peut-être que ça vous étonne ce que je vous dis. Mais quand je vois combien la mondanité et le péché, parce qu'il est quand même dit que ceux qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'il dit après ? Ne peuvent pas plaire à Dieu. Et hier, en préparant cette prédication, il n'y a que l'embarras du choix, excusez-moi l'expression, mais pour trouver des textes qui vont nous amener à comprendre l'instrument du témoignage, je pensais, et je vous encourage vraiment à le lire, je pensais au comportement d'Ézéchias. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Chroniques. Je vous encourage à le noter parce que c'est quand même une expérience. Vous savez, la Bible nous demande d'imiter la foi de certains hommes ou femmes qui ont fait mouvoir le bras de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Ézéchias, c'est 2 Chroniques chapitre 29. Alors, pour bien vous imprégner, il faut que vous lisiez 2 Chroniques 29, 30 et même le début du 31 pour voir comment les croyants ont réagi après cette affaire. Parce que le problème, ce n'est pas d'entendre la vérité. Le problème, c'est comment je me comporte après. quand je rentre à la maison. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a des gens, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, même si le sermon était dans la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire que les choses n'ont pas changé. Mais regardez, on va revenir à l'essentiel, mais regardez, dans 2 Chroniques au chapitre 31, parce que je crois que le Seigneur m'a montré hier, une des difficultés, c'est après les sermons, après les réunions, la quantité de gens qui retombent dans leur routine, dans leur train-train, dans leur péché, dans leur vie par la chair, etc. Mais regardez dans 2 Chroniques, alors si vous, on verra certaines choses, 29 et 30, il s'est vraiment passé des choses parce qu'un homme s'est tenu devant Dieu. Et au chapitre 31, lorsque tout cela fut terminé, donc c'est l'image de la réunion qui est finie, d'un séminaire qui est fini, d'un dimanche qui se termine, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, des Benjamins et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans la ville, chacun dans sa propriété. Ils ne sont pas retournés en disant « c'est bien, on a entendu un beau sermon » ou l'inverse. On a entendu quelque chose d'utile. Non, quand ils sont terminés, ils sont rentrés chez eux, ils ont dit « ça c'est une idole, je vais m'en débarrasser ». Ça, ça ne plaît pas à Dieu, ça c'est charnel, ça c'est mondain. Alors il y a les activités de la vie, je l'ai trop dit pour y revenir ce matin. Il y a les choses de la vie qu'il faut faire, manger, boire, repasser, etc. Travailler, ça fait partie des choses saines de la vie. À moins qu'on y introduise quelque chose de malsain à l'intérieur, ce qui peut arriver. Mais lorsque la réunion a été terminée, en ce dimanche ou en ce jour-là, les frères et les sœurs, ils sont rentrés chez eux et ils ont dit, on ne peut pas retourner à la maison comme on y était avant. Des choses doivent changer, des choses doivent être brisées, des choses doivent être brûlées. Et Ézéchias, quand il a... Alors, revenons un peu en arrière. C'est intéressant parce que ça nous indique comment il faut faire. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, Ézéchias, quand il est devenu roi, il avait 25 ans. Oui, c'est pas vieux 25 ans, hein? Non? Il y en a qui ont 25 ans ici. Vous imaginez si vous étiez roi. Peut-être que vous le serez à l'épiphanie, quelques secondes. Il régna 29 ans à Jérusalem. Alors regardez, verset 3. Regardez bien la réaction de cet homme, l'attitude de ce jeune homme. Il est roi, un roi. À quoi ça pense un roi quand ça obtient la royauté? Tiens, vous allez m'aider. À quoi ça pense un roi? Au pouvoir, à l'armée. Vous voyez, ça pense à des bons pains. C'est bien quand même d'y réfléchir. La première année de son règne, le premier mois, vous voyez, il n'a pas attendu. Hein? J'ai presque envie de dire le premier jour. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Vous lirez tout ce chapitre. Regardez au verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Ils ont éteint les lampes. Il faut lire toute la souffrance qui est exprimée dans la prière de cet homme. Et au verset 10, regardez ce qu'il fait. Et je sais que parmi nous, il y a des frères qui ont dit « Seigneur, je me reconsacre ». Et ils ne l'ont jamais fait. Ce matin, Dieu veut vous aider. Regardez ce que dit ce jeune homme. Il est jeune. « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. » Est-ce que Dieu pourrait nous dire la même chose, mes frères? Est-ce que Dieu pourrait nous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, un jeune homme, une jeune fille, un couple, une église entière, ça serait le top. Est-ce qu'il y aurait des hommes et des femmes qui pourraient ce matin dire, mais moi aussi je veux faire une alliance avec l'Éternel. Il y en a assez de toute cette vie charnelle, de toute cette vie mondaine. Il faut un instrument entre les mains de Dieu. C'est vrai que la théologie c'est super, c'est pas par la force, c'est pas par la puissance, c'est pas par l'argent, c'est pas par les méthodes, c'est pas par le moi n'y arrivera pas. Même ferait-il parfait. C'est par des gens spirituels. Et Ézéchias est conscient, on a même éteint les lampes, et c'est ce qui est en train d'arriver. La lumière, on a besoin de lumière, on a besoin d'être éclairé, c'est pas à nous, avec nos idées, de oui ça, il faut pas faire ça, ou dans l'église, monsieur Gault, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Écoutez, dans l'église, il faut se sanctifier pour que Jésus règne dans notre vie, et pour que sa volonté soit faite sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Et il ne faut pas retourner à la maison en continuant à vivre dans notre péché, dans notre vie charnelle. Il faut qu'il y ait une réaction. C'est vrai que la réaction, elle est venue d'Ézéchias qui a dit, ça suffit. Quand on voit son père, parce qu'il faut voir le papa d'Ézéchias. Parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Le papa d'Ézéchias, Akaz, c'était un bon lui. Un jour, il a été à Damas. On peut le lire. Il va à Damas. Et qu'est-ce qu'il voit dans le temple païen? Il voit un autel immense. On va le lire, il faut le lire. Je ne sais pas si vous aimez l'Ancien Testament, mais je voudrais vous le faire aimer, l'Ancien Testament. Deux Rois, chapitre 16, verset 9. Voilà, ça c'était bien. Le roi de Syrie avec le roi d'Israël, tout ça, ils étaient devenus copains. Vous savez, quand on commence à devenir copains avec le monde. Alors quand on le lit, on ne le voit pas ça. On se dit, mais c'est bien, ils sont dans la paix. Regarde, mais il faut comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Parce que c'est exactement ce qui se passe au niveau spirituel dans nos églises. Regardez, peut-être que vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens que moi, je ne le lis pas, j'y comprends rien. Mais ça vaut la peine de prier peut-être avant. Et de Seigneur éclaire-moi. Regardez, 2 Rois, chapitre 16, verset 9. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas. Alors, verset 10. Le roi Akaz, se rendit à Damas, au devant de Tsigag Pelizer, roi d'Assyrie. Regardez bien. En ayant vu l'autel qui était à Damas, dans le temple, païen, le roi Akaz, dont le roi d'Israël, envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel. Alors là, ça pressait. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour à Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel et s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa de ses libations et répandit sur l'autel le sang et les sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison de l'autel. Ah, regardez, il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel de la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Le roi Akaz donna cet ordre à Zacharie, au sacrificateur Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Allez, ça, il s'en occupait, ça c'est clair. Mes frères et sœurs, croyez-moi que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans les églises, on veut un autel plus grand. J'espère que vous avez compris l'image. C'est-à-dire plus de liberté, plus de permissivité. On veut plus de tolérance. C'est exactement ce qui se passe. On veut un autel qui ressemble à celui du monde. Et c'est en train de rentrer. C'est ça l'apostasie, puisque Satan va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mes frères et sœurs, nous voulons le Seigneur Jésus comme modèle. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, même des chrétiens qui se disent être nés de nouveau sont en train de demander davantage de permissivité, davantage de liberté, davantage de tolérance? Dans l'église, il faudrait faire aussi comme ça, ça plairait aux pécheurs. Mais je vais vous dire une chose, on n'a pas à chercher à plaire aux pécheurs. On a à plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, que ce chapitre 4 de Zacharie est un chapitre qui nous montre, bien sûr, que ça se fera par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit pourra revenir. Quand le Saint-Esprit sera venu, on peut dire, écoutez, ne dites pas que je suis trop sévère. Quand le Saint-Esprit sera revenu, il convaincra le monde de péché. Et peut-être il faut déjà que ça commence par les chrétiens. Avant que les gens du monde soient convaincus de péché, il faudrait peut-être que nous, les chrétiens, nous le soyons par rapport à des choses qui sont vraiment des péchés. Mais que nous avons mis sur le grand autel, nous voulons nous un grand autel, mais je le vois, moi, tout ce qu'on me dit, mais je vous assure, des fois il faudrait le noter, je vous le lirai, bon, ce ne serait pas intelligent, ce ne serait pas la volonté de Dieu, mais c'est pour vous donner l'idée de la façon dont les gens ne veulent plus de Jésus. Ils veulent bien d'un Christ, un Christ gentil, vous voyez, un Christ qui passe partout. Voilà, la croix, pas trop, pas la croix, ça va peiner les gens, ça va les énerver. Écoutez-moi, la prédication de la croix, c'est la seule chose dont nous ayons besoin. Aujourd'hui, la croix, ce n'est pas derrière. Le calvaire, c'est toujours aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons être au bénéfice du sang du Seigneur. Nous devons continuer à être au bénéfice du sang du Seigneur. Mes frères et sœurs, plusieurs, je le sais, prient pour le réveil. Je pense qu'on ne devrait même pas prier pour le réveil. Vous avez compris ce que je voulais dire. On ne devrait même pas prier pour avoir la puissance, même pas prier pour avoir l'onction. On devrait prier pour dire au Seigneur, fais de moi ce grain de blé qui va tomber en terre et qui va mourir pour porter beaucoup de fruits. Parce que la loi de la multiplication, elle est biblique. Jésus l'a exprimée par ce grain de blé qui meurt. Et Jésus dit, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu, puissant. Il peut tout, notre Seigneur. Il est vivant. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé ce chapitre de Zacharie. Et il cherche des chandeliers tout en or. Vous le savez, ce que je l'ai lu l'autre jour, qu'il y a un fondement qui est posé par Dieu qui subsiste toujours. Et ce fondement, c'est Dieu connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Car dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a des vases qui sont en bois, et il explique qu'il y a des vases qui sont inutiles et qu'il y a des vases qui sont utiles. Les vases qui sont utiles, ce sont les vases qui sont d'or et d'argent. Et il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera ce vase utile. Est-ce que nous voulons un vase utile? Est-ce que nous voulons que l'assemblée soit un vase utile? Est-ce que nous voulons véritablement comprendre? Hier, je lisais dans Jérémie, quand Dieu dit, mais ils ont leurs oreilles incirconcises. Vous savez ce que ça veut dire? C'est facile à comprendre. Ils entendent tellement de choses qu'ils n'arrivent plus à entendre les choses de Dieu. Mais lorsque Ézéchias est arrivé au pouvoir, lorsque Ézéchias a pris conscience de ce qui se passait en Israël, il a dit, mais il faut faire quelque chose, parce que l'ardente colère de Dieu est sur nous. Et même si nous pouvons dire, ben ouais, mais écoutez, de toute façon, la colère de Dieu, elle va venir. Est-ce qu'elle va venir, la colère de Dieu? Oui, on pourrait dire, ben soyons logiques, la colère de Dieu, elle va venir. Mais est-ce que nous savons qu'une église remplie du Saint-Esprit peut repousser la colère de Dieu et que la colère de Dieu repoussée, ça indique que Dieu va sauver des âmes? Est-ce que nous voulons que des âmes soient sauvées? Est-ce que nous voulons véritablement dire, mais Seigneur, tu es en train de me parler? Ça fait des années que j'entends ta parole et quand je rentre à la maison, je retombe dans mes travers. Tout ce que j'ai te dit, j'en ai honte, je suis frustré. Je t'ai promis de me consacrer, je t'ai promis de me reconsacrer, je t'ai promis de me sanctifier. Et chaque dimanche soir, je suis en train de regarder des saletés à la télévision. Je suis là, je suis esclave de ces choses. Mes frères et sœurs, il y a une victoire. Celui qui est en Christ, il doit se regarder comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu, voilà la solution. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point le cœur de Dieu soupire. Est-ce que nous pensons peut-être pas au cœur de Dieu? Peut-être que vous pensez qu'au vôtre, mais c'est normal qu'on pense qu'à notre cœur. Quand on n'est pas trop bien, on pense qu'à nous. Mais est-ce que vous imaginez un instant le cœur de Dieu qui soupire à trouver une église? Comme il a dit à Isaïe, mais il parle au nom de la Trinité, puis il dit, mais qui marchera pour nous? Vous rappelez ce texte, cette question que Dieu pose à Esaïe, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Esaïe qui a été touché dit, me voici, envoie-moi. Et quand on voit le ministère d'Esaïe à partir du chapitre 6, c'est clair que cet homme, il a été vraiment touché. Et l'œuvre de Dieu a pu se faire parce que cet homme a pris la résolution quand il est rentré chez lui de dire, non, ça suffit. Je suis désagréable à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne sont pas agréables à Dieu. Ne nous imaginons pas que nous allons pouvoir faire l'œuvre de Dieu si nous sommes désagréables à Dieu. Ézéchias a dit, voilà, ça suffit. Ça suffit. Et que ceux qui veulent, eh bien, me suivent. Cessez d'être négligents. Et ils l'ont fait. À tel point qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait aussi en rentrant chez eux. Vous lirez les chroniques, là, de chroniques 29, 30 et même 31. Et vous allez voir combien Dieu s'est réjoui de ce que tout à nouveau, on a restauré le temple. Et le temple, c'est nous. C'est nous le temple de Dieu. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Bien sûr que ce local, quand nous venons ensemble, devient la maison de Dieu, puisque nous sommes des pierres vivantes. Mais le temple, c'est nous. Nous serions sous des arbres, dans un bosquet, nous serions pareil, l'église du Seigneur Jésus. Et Dieu cherche, mais vraiment Dieu cherche. C'est pas du blabla, du dimanche matin, c'est pas un truc pour faire bien, pour dire « Ah bon, Dieu s'intéresse à nous, il cherche quelqu'un ». Dieu cherche quelqu'un qui va acheter de l'or. Et il faut savoir se débarrasser de tout ce qui est notre or à nous. C'est ce que Job dit, un ami qui dit « Mais jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir dans les torrents, dans les cailloux, et l'Éternel sera ton or ». Il y a des choses, vous savez, dans la prophétie, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a joué au loto. C'est une abomination, je vous le dis. Et heureusement que vous n'avez pas gagné. Je le dis maintenant parce que je sais qu'il me faut le dire. Heureusement, si vous aviez... Je parle à la personne, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir. La personne, si elle avait gagné au loto, elle aurait divorcé. Écoutez, je le sais. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Béni soit Dieu pour toutes les prières qu'il n'a pas exaucées. Peut-être que ce que je vous dis, ça vous dépasse, mais croyez-moi, c'est la vérité. Merci Seigneur pour toutes les prières qu'il exauce, et merci souvent pour celles qu'il n'exauce pas. Ézéchias, quand il a vu ce qu'avait fait son père, il a dit « ça ne peut pas durer ». Il n'a pas dit « ouais, c'est mon père, il faut que je respecte, il a mis un hôtel, un super hôtel, c'est quand même chouette hein ». C'est ça aujourd'hui, ah c'est chouette, hein, je ne vais pas donner des exemples pour blesser personne. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons voir l'or couler des canaux vers le chandelier, si nous voulons voir le Saint-Esprit couler tout à nouveau, il ne coulera que dans des chandeliers en or, entièrement purifiés, entièrement sanctifiés. On se demande pourquoi la prédication de la croix ne produit pas l'effet qu'elle devrait produire. Eh bien, c'est pour cette raison. C'est parce que la prédication de la croix est apportée d'une manière trop charnelle ou trop humaine. La prédication de la croix, elle doit être apportée par l'Esprit de Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte le temps que nous perdons, le temps que j'ai perdu, parce que bon, si j'ai honte, je me mets à votre place, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous faire la leçon, ça serait grave si je vous faisais la leçon. Je suis en train de nous faire la leçon. Parce que je crois que nous avons besoin d'avoir l'intention de faire une alliance avec Dieu. Et Dieu voit vos cœurs. Que vous soyez jeune, que vous ayez 25 ans comme Ézéchias, ou que vous soyez âgé comme Moïse de 80 ans, ça dépend, vous savez, Dieu, ça lui est égal que quelqu'un ait 80 ans, que quelqu'un ait 25 ans, que ce soit un homme ou une femme, un riche ou un pauvre, Dieu ne regarde pas à ces dimensions. Dieu regarde au cœur. Il a pu utiliser un berger, un jeune berger, il était tout jeune, il a fallu qu'il forme un autre vieux berger, Moïse. Combien aujourd'hui aurait dit à Moïse, écoute Moïse, dans l'église, hein? Combien aurait dit à Moïse, écoutez, comprenez-le ce que je vais vous dire. Combien aurait dit à Moïse, écoute Moïse, si on a un conseil à te donner, et si tu veux faire bouger le bras de Dieu, reste chez Pharaon. Vous savez que c'est vrai. Aujourd'hui, dans 99% des églises, les chrétiens diraient à Moïse, écoute-moi, sois sage, reste en Égypte. Tu verras quand tu seras Pharaon numéro 3, comment tu vas pouvoir faire bouger les choses. Écoutez-moi, heureusement qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Et je ne sais pas, nous on est là, mais oui, il te faut rester ici, il te faudrait avoir ça, voilà, il te faut prospérer. Moi je ne crois pas qu'il faut prospérer. Moi je crois qu'il faut mourir à soi-même. Dieu cherche, oui, il nous rappelle que ce n'est pas par la force, et dans des versions, c'est ne pas par l'armée, ça veut dire que même on aurait une armée à notre disposition, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. On a besoin du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse couler par les canaux, il faut que les instruments soient d'or. Et l'or, c'est cette intégrité, pas le temps d'un culte, c'est cette intégrité le jour et la nuit, à la maison et au travail. Moi, j'entends des témoignages en ce moment, ça me brise le cœur. Des chrétiens qui mentent, des chrétiens qui sont grossiers, des chrétiens qui ont de la haine, qui insultent. Mais laissez-moi vous dire qu'avant que le Saint-Esprit ne puisse convaincre le monde de péché, il va falloir tout à nouveau qu'il y ait une visitation dans l'Église. Je pense que vous êtes tous d'accord. Et peut-être que si vous êtes concerné par ce que je viens de dire, eh bien c'est bien, c'est très bien. Si vous vous sentez repris, par contre, n'en faites pas, ne laissez pas le diable vous accabler, ne laissez pas le diable vous traumatiser. Prenez une décision et dire, c'est vrai, j'ai de la haine pour un voisin, je ne dis même pas bonjour. Eh bien, prenez l'évangile et dites-lui, tiens, vous savez, j'ai à cœur. Priez. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être il y a 15 jours, il y a quelqu'un qui a dit, mais Dieu te le montrera. Est-ce que ce n'est pas vous que Dieu va utiliser pour lui montrer que Dieu l'aime? Nous, on est loin des choses souveraines. Mais mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde », je voudrais que nous comprenions que l'œuvre de Dieu, elle se fera avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit, il n'est pas donné à ceux qui sont d'accord. Vous savez, il y a des gens qui sont très, très carrés avec la doctrine. Mais on a l'impression qu'ils peuvent en faire. Mais ce n'est pas avec des gens intelligents que l'œuvre de Dieu se fera. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens intelligents ou pas. Elle se fera avec des hommes remplis du Saint-Esprit. Et Dieu, du haut des cieux, sur son trône, cherche une église, cherche un chandelier. Il n'a pas de problème avec l'Esprit. L'Esprit, nous on est là, Saint-Esprit, mais convainc de péché, Saint-Esprit, guéris. Mais ça, c'est la part de Dieu. Ne vous occupez pas de la part de Dieu. Vous savez, quand ce cimetière ouvert, là, vous savez, tous ces ossements desséchés, vous croyez que c'est un problème pour Dieu de ressusciter des morts? Ne vous occupez pas de la façon dont Dieu va convaincre les gens de péché. Ou comment Dieu va s'occuper de quelqu'un. Occupons-nous de nous, chacun. Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que vous attendez de ce moment? Vous qui êtes venus dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que vous attendez de ce moment? Qu'est-ce que nous attendons? Que la colère de Dieu vienne, les bras croisés, de toute façon elle va venir. Mais est-ce que vous n'aimeriez pas qu'elle soit reculée un peu la colère? Vous n'aimeriez pas qu'elle soit reposée pour le salut de votre mari, pour le salut de votre femme, pour le salut de vos enfants? Vous n'aimeriez pas que la colère de Dieu soit reculée un peu? Imaginez-vous que votre conjoint se convertisse au mois d'octobre et que Jésus vienne au mois de novembre. Vous préférez que Jésus revienne en septembre ou en novembre? Ben c'est ça, il faut avoir du bon sens. Et ce que Dieu a dit, mais comment il s'appelle? Malachi, le prophète Malachi. Dieu lui avertit que ça va aller mal, très 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 mal, que la colère de Dieu va venir. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et son comportement recule la colère. Parce qu'on dit au Seigneur, reviens, reviens, reviens. Mais quand même, je crois que Dieu veut sauver des gens. Vous croyez que Dieu veut sauver des gens avant son retour? Alors, est-ce que nous voulons, frères et sœurs, est-ce que nous voulons dire, oui, c'était une bonne prédication, souvent je l'entends ça, j'entends. Oh non, c'était pas bien, il s'est ramolli un peu. Écoutez-moi. La parole de Dieu, elle ne change pas. Ne cherchons pas à construire un hôtel plus grand pour faire plaisir aux gens charnels. Restons sur le modèle qui est la présence de Jésus-Christ manifestée dans nos esprits parce que l'Esprit de Dieu pourra travailler en nous. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Mais je voudrais devenir ce chandelier tout en or ». Répondez au Seigneur, ne me répondez pas à moi, c'est pas important, moi je suis votre pasteur, ça s'arrête là. Mais je vous pose la question sérieusement. On va vivre, vous le savez, des temps difficiles, mais on peut vivre des temps glorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui croit qu'on peut vivre des temps glorieux? Des temps de manifestation de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit dans cette assemblée? Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mais que dans les derniers jours, je répandrai aussi de mon esprit? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, ça fait 20 ans que tu me parles et je rentre à la maison et je retourne dans mon péché et je regarde mes cochonneries sur Internet et je continue à considérer le travail comme une malédiction. J'ai de la haine contre ma femme, j'ai de la haine contre mes enfants et je regarde ces trucs. Mais combien de temps? En plus, vous êtes en train de jouer avec votre salut. Et vous avez vu du temps d'Ézéchias? Ils n'ont pas dit, oh ben c'était bien. Il change de son père. Hein. Ah, ça c'est bien. Ils sont rentrés et ils ont brisé les idoles. Et vous lirez la suite, vous verrez que ça a dû plaire au Seigneur vraiment. Quelles sont les idoles qu'il y a dans ma vie qui prennent la place de Dieu, qui m'empêchent de devenir ce vase, ce chandelier d'or? Je m'adresse, de la part du Seigneur, c'est pas moi, bien sûr que moi je suis intéressé, mais je me parle à moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église? Est-ce que Dieu ce matin, qui regarde du haut des cieux, toutes les églises de la terre, ça nous dépasse, mais c'est comme ça. Dieu regarde tous les chrétiens. Et il voit là où il ne pourra pas travailler parce qu'on a cherché un hôtel plus grand. Mais il voit les églises où on veut remettre l'autel des reins. Le véritable autel, la parole de Dieu. Dans ses dimensions. Et je vous parle de la part du Seigneur. Écoutez bien mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que c'est moi qui vous parle, ça serait n'importe qui d'autre, c'est pareil. Mais vous vous rendez compte si ça vient de Dieu. Et je pense que ça vient de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut demander de l'aide à Dieu, qui veut dire, Seigneur, oui, je veux être ce serviteur, cette servante, je veux être ce chandelier d'or, parce que l'or, il ne découle que des canaux d'or. Il y a une puissance, une réserve infinie dans ces fameux oliviers. La parole et le Saint-Esprit ont une puissance infinie. Alors, mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ce matin. Mais je pense que si Dieu est venu, si vous êtes venu, Dieu savait que vous viendriez. Oui, vous êtes peut-être jeune, vous n'avez peut-être que 16 ans ou 20 ans, je ne sais rien. Ou vous en avez peut-être 80. Mais 80? Et si vous reste 5 ans à vivre, vous savez que dans les 5 années qui vous restent à vivre, vous pouvez faire 100 fois plus que vous avez fait dans vos 80 premières années, si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez ça? Nous avons un Dieu qui nous aime. Il parle. Ce matin, je veux croire que tu as parlé à quelqu'un.